great power comes great responsibility.
Tony, I'm the best.
I'm not locked in here with you.
You're locked in here with me.
In brightest day,
in blackest night.
Why so serious?
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission de la bande des comics numéro 52. Ça sera cette fois un spécial Noël en ce dimanche 7 décembre. On va prendre le temps de vous faire quelques recommandations de BD, manga et un peu de tout, je crois. On en a discuté, donc on va tâcher de vous donner envie, j'allais dire, d'être intelligent dans les choix, mais ça, non. Je vous invite à voir la vidéo, vous verrez que Rémi n'est pas très intelligent dans ses choix vestimentaires à l'instant. Voilà.
Ils sont venus en habit de lumière.
Exactement, et notre Père Noël est là, au moins.
Oui.
Voilà, je suis pas sûr qu'il vous offrira des cadeaux, mais...
Ça dépend lesquels.
Hein, c'est ça. Méfiez-vous quand même. Hein. Je pense que les gens ils vont pas te croiser dans la rue.
Non, je pense pas. Non.
On a toujours avec nous Christophe Alliel qui nous fait le plaisir d'être là encore pour l'enregistrement de cette nouvelle émission. Christophe, comment vas-tu depuis...
Ça va super.
Dernière émission.
Tout va bien.
Ouais, c'est bon, ça va, le décalage.
Prêt pour Noël.
Le décalage d'une semaine, tout s'est bien passé.
Ouais.
À côté de lui, elle est là, souriante, en forme, avec des lunettes, je sais toujours pas si c'est elle. Voici Annie. Vas-tu bien ?
Très bien, et vous ?
Ben oui, ça va.
Voilà. À côté d'elle, ben, le père
Noël. Pas eu mon cadeau. Hein.
T'as pas eu ton cadeau ?
Méfie-toi. Méfie-toi. Donc, Rémi, Père Noël en charge.
Bonjour les enfants.
Voilà.
En grande forme.
En grande forme. Et de l'autre côté, plus sage, tu sais qu'au moment de la diffusion, il aura fallu raser cette petite moustache.
Et oui, normalement, j'aurais dû raser entre les deux émissions.
On va falloir se remettre à jour.
Hein. Tout à fait. On va faire la barbe blanche à la place. Ça va très bien, merci.
Bon, et votre serviteur, Ardé, content de vous retrouver. Un petit générique et on attaque les actualités. Alors, messieurs, dames, madame, on va commencer par toi, madame.
Très bien.
Dis-nous.
Il y a le concert d'Attaque de Titan, Beyond the Walls, qui a été annoncé, disponible du coup en France le 19, 20, 21 septembre prochain, 2025.
D'accord.
À Paris. Et c'est un peu une fusion entre des musiciens rock avec un orchestre symphonique qui accompagne le tout. Mmh. On va avoir une projection avec des morceaux de l'anime en fait qu'on peut retrouver. Donc si vous êtes un grand geek comme moi, vous allez vouloir y aller.
C'est un ciné-concert, c'est ça ?
Oui, un peu.
Ouais,
oui.
Ça, ouais. D'accord.
Et ça me rappelle dans l'esprit le concert Dragon Ball pour l'anniversaire que j'avais fait à Grand Rex, où pareil, tu avais des projections, tu avais les acteurs. On a même eu la chance d'avoir ceux qui font la voix off des personnages français qui sont arrivés sur scène. Oui. Et en fait, l'ambiance, elle est juste incroyable parce que ça sautille dans tous les sens. Il y a de la Corée et tout. Les gens, c'est vraiment.
La coke.
Non, mais vraiment,
c'est pour ça qu'on
Corée, Corée.
C'est incroyable. Enfin, c'est l'équivalent d'un événement rock, j'ai l'impression. Ouais. C'est vraiment très de niche, mais c'est incroyable à vivre.
Ils sont tous déguisés ou pas ?
Alors, ça dépend. Non. Ça dépend. Ça dépend dans l'esprit dans lequel tu vas. Mais je pense qu'Attaque des Titans, étant donné qu'ils ont énormément de goodies vestimentaires, il y a des fortes chances que du coup on se retrouve dans une salle où il n'y a que ça.
Et oui, le bataillon d'exploration.
Les Dragon Ball, il y a rarement
du cosplay. Mais pas trop. Ouais. Ouais. L'Attaque des Titans, il y en a toujours. Hein, avec la tenue du bataillon d'exploration, là, tu les vois tout le temps.
Parce qu'elle est très simple à porter, en
aussi.
Fait.
Oui. Ils sont plus jeunes, c'est une génération.
Et donc, on a des concerts à Paris, on a aussi des concerts à Lyon. Vous pouvez aller regarder sur Internet pour acheter vos places. Je pense Paris.
Pareil. Bon, bah, tu nous ramèneras des infos à ce moment-là.
Ah oui.
Jay, tu as quelque chose ?
Oui. Lors de la dernière New York Comic Con, on a eu une grande info sur le retour du label Vertigo. Donc, dont on avait fait une émission thématique il y a quelques temps de ça.
Oui.
Donc, très heureux du retour de ce label-là. Tu nous parlais tout à l'heure en off, Christophe, de Joe the Barbarian. Du coup, Joe l'Aventure Intérieure, qui était sorti sur ce label-là. Il y a Sandman, Preacher, Y le Dernier Homme, etc. Et donc, là, le premier titre annoncé chez ce label, donc, qui va donner la part belle aux auteurs, donc ce qu'ils appellent le Creator-Owned, où ils auront les droits sur les créations qu'ils vont apporter, même si ça reste sous l'égide de DC Comics, quand même. Et pour le coup, le premier titre, c'est Nice House by the Sea, donc qui est la suite de Nice House on the Lake.
Ouais, c'est bon, je peux aller dormir.
Donc un titre que j'ai adoré, que Rémi a détesté. Et voilà, donc c'est le premier qui est annoncé. Alors il y a quelques numéros qui étaient déjà sortis au Black Label, et donc ils vont passer pas mal de choses du Black Label directement sur le nouveau label Vertigo qui s'est arrêté pendant 5 ans. Donc.
À quoi va servir le Black Label alors ?
Quelques titres d'ici vraiment purs et durs. Voilà, pour le coup, ils vont vraiment faire la différence entre ce qui relève de créations autres de l'univers, que l'univers d'ici, et à l'intérieur du Black Label, il devrait rester les titres d'ici un peu en série courte.
Voilà, indé, quoi,
voilà, vraiment avec ce souffle indé, mais plus les personnages d'ici. Voilà.
D'accord. Pourquoi pas. De mon côté, je voulais rappeler, annoncer, enfin, vous le verrez, la saison 2 de la série Star Wars Andor.
Oui.
Voilà, la première saison était excellente. Oui. Donc Andor, on suit le résistant qui est en Rogue One.
Ah voilà, oui, c'est d'accord.
Voilà. Et donc on suit ça avant, forcément.
Ah oui, parce qu'il y a pas d'après.
Et voilà. On sait pas.
On sait pas. Le mystère.
Ouais, y a pas d'après.
Ah, spoiler.
Non, la saison 1 avait été un renouveau des séries Star Wars, avait sauvé les séries Star Wars, parce qu'on était très très bas.
Ouais.
Non, c'est toi qui aimes, par exemple, le côté espionnage, etc.,
ouais,
tu devrais aimer cette saison 1, et donc la saison 2, on l'espère bientôt.
Combien d'épisodes? Quelle durée?
C'est des épisodes de 45 minutes, et il me semble qu'il y en a 10 ou 12.
Oui, bon, ça fait une bonne séance
Disney,
de visionnage. Quoi.
Sur Disney, sort au mois de décembre. Voilà.
Ok. Moi, de mon côté, hier, du coup, au moment de la diffusion, c'était la première édition des First Print Awards au Club de l'Étoile à Paris. Je ne sais pas où c'est Paris. Et du coup, en fait, c'est une espèce de premier prix. Voilà, c'est la première édition de prix qui sont attribués au monde des comics par l'équipe du podcast First Print. Évidemment, il y a toujours plusieurs catégories, le prix du public, le prix des libraires, le meilleur album jeunesse, la meilleure série indépendante, meilleure série de super-héros, etc., etc. Ils ont fait une très grosse communication sur les réseaux, j'ai regardé ça, j'ai été parfois un petit peu surpris du choix des albums qui a été retenu, de la sélection, merci, mais... Malgré tout, c'est bien. Je trouve que de plus en plus de personnes liées au monde de la BD et au monde de la littérature, du livre, font des prix. Et je trouve que c'est bien. Je trouve qu'il n'y a pas de saturation et ça amène toujours de la visibilité sur un album. On sait qu'il y a le Quai des Buts, les Angoulême qui sont très, très prisés au niveau des prix. Redondance. Mais moi, je trouve que c'est bien et... C'est un podcast qui a su grandir, je trouve, avec notamment avec l'appui d'Urban. Et voilà, donc très très bien et très heureux. Évidemment, au moment de l'enregistrement, on n'a pas eu le résultat, mais très bien pour ce prix de First Print Awards. Jay.
Et on a un petit lien avec First Print parce que au tout départ, quand on a lancé notre émission et qu'on a voulu la diffuser sur les différentes plateformes type Spotify, Arnaud de First Print fait partie de ceux qui nous ont un peu aidés, conseillés pour mettre le pied à l'étrier sur la mise en ligne de la version podcast.
Donc on les remercie.
Voilà,
on les remercie. Voilà.
Surtout si vous nous écoutez en podcast.
Tout à fait.
Sur radio-active.net. Voilà. Ou sur toutes les plateformes. Qui avait une autre actualité? Il me semble que tu voilà, le 7 décembre.
Oui. Tu fais quoi le 7 décembre, Christophe?
Le 7 décembre. Alors, le 7 décembre, je serai en dédicace pour ma série Les Mondes Électriques à Charlemagne de La Seyne-sur-Mer.
Ah, voilà. D'accord.
Donc, c'est une dédicace qui aura lieu en matinée, si je me souviens bien.
Donc, c'est 10h30, mais 10h, midi 30.
Oui, c'est ça.
Je connais les horaires.
Et c'est super parce que le magasin est à 10 minutes à pied de chez moi, donc j'adore ça.
Oh.
Prendre le train ou quoi que ce soit. Donc, et ils sont super gentils.
Grâce mat.
Donc on vous invite à, on vous invite à passer voir Christophe, surtout si vous avez écouté notre émission de la semaine dernière.
Deux semaines.
Vous avez compris.
Retour vers le futur.
Ouais, non, mais des fois c'est compliqué avec l'enregistrement en décalage. Voilà, vous avez découvert ses œuvres et ça sera l'occasion de le rencontrer. Jay, tu avais quelque chose?
Non, mais on est arrivé au bout. Hein,
on est arrivé au bout. Bah alors, si nous sommes au bout, il est grand temps de passer à cette petite nouveauté musicale. Alors, et c'est Creepy Nuts, Otonoke, qui est l'opening de Dan Dan Dan, donc, qui est l'animé adaptation du roman éponyme Dan Dan Dan, dont on avait parlé il y a un moment maintenant.
Oui. Manga, ouais.
Bah écoute, moi je le regarde, je le conseille. Bon, et puis pareil. Creepy Nuts, je conseille le groupe aussi, qui est aussi à l'origine du de l'intro de Machel, voilà, qui fait beaucoup de bruit et c'est très bon. Donc allons-y, écoutons ça. Otonoke.
Man, you come right out of a comic book.
Vous êtes de retour dans la bande des comics. Je me souviens bien que ça, c'était brutal encore.
Oui, ça
en fait.
Finit enfin, tchac.
Voilà, c'est des intros d'animés. On va passer à notre gros dossier. Là, on s'est consulté, réfléchi.
Storming.
Ça fatigue tout ça. Hein. On va vous parler, on va peut-être vous donner même des idées cadeaux de Noël. Avant cela, moi je voulais vous parler d'une chose importante pour notre émission, pour la radio de façon plus générale et même les radios associatives globalement. Vous avez sûrement appris que la loi budget qui va être passée implique beaucoup de réductions de dotations, dont la dotation qui est prévue pour le ministère de la Culture et qui est donnée aux radios associatives. Donc, il est fort probable que votre radio préférée ait des difficultés financières à assurer, parce que comme vous le savez, Radioactive est une radio sans publicité et qui ne marche que grâce au bénévolat de des personnes qui sont derrière les micros, mais aussi aux dons personnels de vous, chers auditeurs, et également de dotations. Donc si les dotations commencent à réduire, ça peut devenir problématique. Aussi, je voulais vous encourager, et on en a discuté avec l'équipe, aussi mettre un petit retour aussi avec nos auditeurs. Voilà, je voulais vous expliquer le principe de don. Qui dans le cadre d'une association donc Radioactive vous apporte un crédit d'impôt de 66%. En gros, si vous donnez 100 euros de don à la Radioactive, vous aurez directement payé 33 euros et 66 euros vous seront retournés par crédit d'impôt. Donc c'est un avantage. Pour ceux qui ont besoin de défiscaliser en fin d'année, n'hésitez pas. Si vous avez trop d'argent, il paraît qu'il en reste.
Oui, quelque part.
1%, mais il en reste. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait rajouter pour rendre ça un peu plus sympa, c'est que tout auditeur qui nous enverra avant la fin de l'année une preuve de son don à la radio, nous voulons le convier à faire une émission avec nous. Voilà. Alors, s'il y a plein de dons, il y aura plein de personnes qui viendront.
Ça serait bien.
On arrangera ça, on fera un planning. Mais voilà, on sera très heureux de vous recevoir, de mettre en avant votre générosité, votre solidarité avec nous. Voilà, on continuera sur les réseaux à vous donner des informations, les liens, comment donner, etc. et les différentes informations au niveau des impôts. Mais je voulais prendre le temps de faire prendre conscience à nos éditeurs que Radioactive est une radio associative qui est mise en danger par la baisse de subventions. Et quand on aime quelque chose, on se bat pour le Le tenir, ouais, t'as vu un
avec
peu.
Son cœur, ça c'est
exactement.
Bien.
Exactement, ouais, bravo. Ouais, bravo. Bah, ouais, parce que bah, force radioactive quand même, moi on entend ma voix 3 samedis sur 4, malheureusement, peu ou heureusement, je ne sais pas. Mais voilà, cette émission est un petit bébé et on est bien partagé en bande. Donc voilà, on aimerait que ça dure et ça passe aussi par la générosité et nos auditeurs. Donc je ne vous dérange pas plus, on vous donnera plus de détails. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, on vous en donnera. Et maintenant, on va passer au cadeau de Noël pour vous, parce que vous, du coup, ça aurait été pour nous.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Mais faites-nous des cadeaux aussi.
Mais voilà, on sera ravis d'accueillir nos donateurs. Qui veut commencer ? Bah, Christophe, allez, tiens. On okay. parle. Ouais, c'est toi qui est resté, c'est toi qui
ça marche.
T'y colle. Bah, on t'écoute.
Bah, moi, juste une idée de cadeau d'une BD que j'ai lue il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé extraordinaire. Ça s'appelait Le discours de la panthère de Jérémy Moreau.
D'accord. Ah oui.
Voilà. Donc Jérémy Moreau, c'est un jeune auteur avec énormément de talent. C'est un gars qui avait fait Tempête au Hara, si je me souviens bien. C'était une adaptation. Il avait aussi fait un récit sur un homme préhistorique qui en fait était pas du tout dans la mentalité des hommes préhistoriques, c'est-à-dire que c'était un rêveur qui avait tendance à regarder le monde, à admirer les fourmis, à admirer tous ces trucs-là, au lieu de bouffer, d'aller chasser,
de survivre,
et de participer à la tribu. Et ça s'appelait Pense et les plis du monde, qui était extraordinaire aussi, ça m'avait ému aux larmes. Et donc son nouveau truc, c'est pas sa nouveauté, mais c'est ce que j'ai lu récemment, ça s'appelle Le discours de la panthère. Et là, c'est un récit où en fait, on suit plusieurs animaux. Donc c'est des animaux qui se parlent et qui en fait explorent le monde. Son dessin est très minimaliste, pardon. On est dans de la jeunesse, c'est très abordable pour les jeunes lecteurs.
Très coloré.
En fait, c'est un récit qui a l'avantage de parler de philosophie et du regard sur le monde qu'ont les enfants par rapport au legs des générations, quoi. Et moi, ça m'a ému, ça m'a touché. Et je suis une bille en philo, mais en tout cas, Jérémy arrive.
Mais avec le dessin, ça marche.
Bah, ça fonctionne. Jérémy arrive à parler,
à transmettre quelque
chose via ce récit-là. Et moi, je vous conseille. C'est vraiment. En plus, c'est un bel objet. La couverture est magnifique.
27 euros.
Voilà, ça pourrait. Ouais, c'est un peu 27 euros, mais c'est un gros bouquin.
C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a de la page.
Et franchement, c'est Marocco du jour, même du moment, quoi.
D'accord, bah écoute, merci pour cette recommandation. Très chère Annie,
Alors,
dis-nous tout.
J'ai deux ouvrages à mettre en avant.
Bah, commence par le premier.
Que j'aime beaucoup personnellement et que je trouve qu'on peut utiliser un peu pour toutes les sauces, pour tous les âges. Et j'ai le Tu mourras m'embête. Alors, je cherchais justement le nom de l'autrice.
Mario Montaigne.
Voilà, merci, de l'autrice. Donc, c'est un petit format mi-BD, mi-livre. Donc, on va avoir.
C'est le fameux format poche où il faut des grandes poches.
Il faut des grandes poches.
Non,
c'est quand même plus grand.
Alors, oui, c'est un vrai format bouquin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas juste des planches avec des dessins. Et on n'a pas juste du texte non plus. C'est vraiment un mélange entre les deux.
Ouais, c'est roman graphique.
Ouais, c'est on est plus sur de la bande dessinée, on va dire documentaire.
Oui, voilà, d'accord. On va avoir des questions, des thématiques. Et grâce au professeur Moustache, on va découvrir et comprendre pourquoi on arrive à certaines conclusions. Il y a des scènes humoristiques dedans qui sont juste géniales, subtiles, mais bien dosées, je trouve. Donc, on apprend plein de choses. C'est une encyclopédie format BD pour moi, très mignonne. Il y a 6 tomes actuellement.
Mais ça parle de
quoi ? Je me permets. En fait, tu as plusieurs thèmes. Je crois que tu as la médecine, tu as
le cinéma.
Et en fait, c'est des questions bêtes, on va dire.
Ouais.
Mais c'est un peu comme le cinéma pour les nuls, si tu veux, mais en bande dessinée. Et donc l'autrice explique.
Typiquement, moi, enfin, un truc que je retiens. En temps normal, on utilise les AK-47, mais on a aussi d'autres variantes d'AK-47.
En temps normal.
En temps normal.
Oui, non, mais je veux dire quand
mais ça, tu dois monter à Paris dans pas longtemps.
D'accord.
Et, donc, on a aussi des variantes AK-45. Donc, la question, c'est pourquoi il y a cette différence-là. Oui. Donc, on vient
comment choisir son fusil d'assaut.
Non, pour Noël,
c'est pratique.
Vous apportez des précisions sur la chose.
On se pose des questions bêtes.
C'est des formats très... Oui, vraiment. C'est des formats petits. Mais par contre, qui sont suffisants pour attiser la curiosité. Et donc, ensuite, forcément, les gens, ils peuvent aller rechercher plus d'informations.
C'est un thème par bouquin ou...
Alors, je crois qu'il y a 3 thèmes par tome. Et chacune des thèmes a 5 ou 6 questions qui sont expliquées. Tout simplement. Enfin, typiquement pour les cinémas, pour les effets spéciaux, pour la façon d'animer. On va avoir des précisions où... C'est très bête comme question, en effet, mais au final, c'est intéressant.
Mais il faut la poser pour savoir. Ouais, quoi. Oui, voilà. D'accord. Tu mets ça à quel âge?
Je dirais quand même à partir de 12 ou 14.
Ouais, il y a différents niveaux de lecture sur l'humour, tu penses?
En fait, surtout parce que... c'est très gentil et très mignon dans l'approche, mais tu vas avoir quand même des sujets qui sont...
La K-47, j'avoue que ça m'a perturbé par rapport à ta description. Tu t'es dit que...
Oui, mais...
Tu m'aurais parlé de la différence entre les nefles et je sais pas quoi.
Les nefles, ça existe que chez nous, j'ai l'impression.
Ouais, mais enfin, t'as compris. Cette femme me fatigue. D'accord, donc tu dis 12 tomes et...
6
tomes.
Il y en a 6 qui sont développés. On a la même chose en format un peu vidéo sur Arte de temps en temps qui passe. Mm-hmm. Donc on peut le voir. Mais
d'accord,
je trouve que
c'est dans la lignée des formats courts d'Arte.
Ouais, comme tout au début,
c'est sorti quand même sur un blog. Donc,
j'attends le film d'ailleurs.
Elle postait son blog avant de commencer à être édité. Et puis là, elle continue à faire le format. Voilà.
Okay.
Donc très choupi, très abordable.
Comment c'est le titre?
Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même.
Ok.
Très gay.
C'est pas mal.
Très fan de Noël.
On note. Jérémy, lequel se lance?
Écoute, alors moi j'ai une petite recommandation, un petit cadeau para BD. Ce sont des puzzles. Des puzzles. Donc j'ai. Quoi?
Para BD.
Il
est resté sur l'émission du mois dernier.
D'accord. Mais tous les publics RD sont invités à lire de la BD, même sur fauteuil roulant.
Pour ça que je me posais la question.
C'est pour ça que des fois, certains livres, on les met en hauteur, comme ça, ils les attrapent pas. Du coup, il y a plusieurs puzzles. Donc, du coup, pour tous les lecteurs et pour tous les âges. Alors, il y a du Boulet Bill, il y a du Game Over, il y a aussi du 13. Du Gaston Lagaffe, on a du Captain Flamme, donc le dernier album de Alexis Talon qu'on salue au passage et qu'on invite à la radio, s'il écoute, on sait jamais. Du Gaston Lagaffe, Le Chat du Rabbin, donc à chaque fois je trouve que c'est un petit cadeau, ça peut être le petit cadeau...
C'est des
puzzles 1000 pièces.
Mais quand même.
Du coup, si vous voulez avoir la paix. Pendant plusieurs mois, comme ça vous collez les minots avec ça et puis vous l'entendez plus.
Ça me prend quelques heures, pas plusieurs mois.
Mais du coup, je trouve que c'est un peu le cadeau. Ça peut être le cadeau un peu de complément pour quelqu'un qui, si c'est un lecteur qui a tous les Gaston Lagaffe ou quoi, et ça peut être un petit cadeau plutôt sympa. On sait que des fois, sur les lecteurs de BD sont un peu difficiles à contenter à Noël. Donc ça peut être, pourquoi pas, une bonne idée.
Je me permets constater là en milieu des la photo où tu me montres les puzzles. Juste à côté, je vois qu'il y a un gros coffret Mortel Adèle aussi. Tu peux juste nous en parler parce que moi j'ai des gosses qui sont fous de ça.
Le box était là, je l'ai pris en photo, mais après
Non, mais je veux dire, tu as peut-être une info sur ce coffret parce que c'est vrai que les coffrets à Noël, c'est le plus sympa et le plus agréable.
Si tu veux,
il est beau.
Sur Mortel Adèle, mais Mortel Adèle, en fait, c'est une licence qui marche extrêmement bien. Et en fait, les auteurs, je pense, à juste titre, attention, mais tirent sur la corde et ont décliné le concept quasi à l'infini. C'est très bien, je pense que ça, quand ça marche, il faut profiter, c'est très bien, il y a plein de spin-offs, donc ça aussi, pour le public... plutôt filles aux alentours de 8-10 ans. Voilà, vous avez plein de coffrets Mortel Adèle.
Mon garçon se régale avec...
D'accord, ok.
Et Mortel Adèle.
Ah oui, de 8 ans, oui. Il adore ça.
Ah, c'est pile l'âge.
Sans aucun... Sans... Alors ça, c'est vraiment un truc... Alors je ne sais pas si c'est mien parce qu'on l'a élevé comme ça ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il n'y a aucun souci à ce que ce qu'ils lisent.
C'est pas genré, quoi. Ouais.
Voilà.
Ouais. Ouais, oui, parce que voilà. C'est pas parce que le personnage principal est une fille que.
Voilà. Non, mais là je parle de format souple parce que t'as
le format souple. Ouais.
T'as un gros.
Petit format.
Ouais,
aussi,
ouais. C'est petit format, pas excessif, je crois.
Mm-hmm. Oui, t'as un format. Là, je veux dire, t'as un collector qui ressemble à un gros livre, à un gros pavé. Ça peut être un joli. Ça peut être un joli objet de collection pour. Pour faire joli dans une bibliothèque de gamins qui commence une collection par le Mortel Adèle, parce que c'est vrai que ça marche très très fort.
Oui, ça marche très bien, donc il faut, enfin, si votre neveu, fille, aime ça, c'est un truc qui peut être tout indiqué pour mettre sous le sapin.
Voilà, ça passe très bien sous le sapin.
Oui, bien sûr.
Et on est bon.
Alors, vu le temps qui nous reste, je vous propose peut-être de couper ici, et on reprendra sur la prochaine séquence après.
Pas de souci. Alors, la musique, qui a choisi, c'est toi ?
Là, c'est moi.
Ah,
c'est les Gardiens de la Galaxie. C'est pas les Gardiens de la Galaxie.
Ah bon,
c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Converge, que j'avais vu au Pointu Festival.
Ah, je crois en deux mots.
En un seul mot, et qui nous a pondu un titre qui s'appelle Dark Horse il y a quelques temps de ça, et donc. Il n'y a pas de lien a priori, mais ça m'a fait penser au label Dark Horse, indépendant américain, qui a sorti notamment Hellboy ou Black Hammer, qu'on aime beaucoup, entre autres, et plein d'autres choses. Et voilà, c'est un titre que j'aime beaucoup, et vous allez voir qui est très très calme, donc dédicacé à tous les amateurs de reggae.
Ça sent la vanne, ça.
Ça sent la vanne.
Allez, on voit. Man, you come right out of a comic book. De retour dans la bande des comics après ce petit moment de délicatesse.
Oui, c'est important d'être délicat.
C'est ça. Répandre l'amour et la délicatesse.
Tout à fait.
Joie, félicité, extase. On va reprendre nos idées cadeaux. Alors, dis-nous, toi.
Alors, reste dans l'esprit de Noël. Ouais. Avec, du coup, un comics.
Tout est phasé, on n'est pas bien remis de la musique, là. Lui, il était comme un fou derrière sa vitre.
Ah ouais, j'étais bien.
T'es tétanisé, quoi.
C'est sans les casques, poser les casques. Bon, allez, vas-y, shirt.
Moi, je vais vous recommander pour Noël une série de comics donc, qui est en 4 tomes chez Urban, qui sont à 31€ chacun. Donc, ça commence à faire une belle petite somme sur un comics que moi, j'ai lu en kiosque à l'époque où ça sortait chez Panini. Ça s'appelle, comme l'émission et notre émission numéro 52, le titre s'appelle 52.
Oui.
Voilà, 52, voilà. Ouais. Ah, ouais, on est professionnels ou on l'est pas. Vous savez que le chiffre 52 ressort très très souvent chez DC Comics. C'est un chiffre qu'ils aiment beaucoup. Ils avaient appelé notamment les New 52, une de leurs aires éditoriales, et qui est directement liée en fait à cette série-là. Parce qu'en fait, ils ont fait, donc pendant les 52 semaines de l'année, ils ont fait donc un numéro qui sortait chaque semaine, donc un numéro d'à peu près 22 pages. Et c'est donc une histoire qui va mêler l'histoire en fait de 5 personnages.
D'accord.
Donc c'est tout à fait particulier parce que c'est des personnages secondaires de chez DC qui vont être présentés, parce que c'est pendant en gros l'année qui a suivi le grand événement qu'on a eu chez DC qui s'appelait Infinite Crisis, et à la fin duquel Batman, Superman et Wonder Woman, donc la Trinité, disparaissaient de l'univers DC. On ne savait pas ce qui se passait, donc là ils sont penchés vraiment sur les seconds couteaux en quelque sorte, et donc les seconds couteaux on les voit un petit peu en arrière-plan de la couverture, qui sont des personnages qu'on ne connaît pas très très bien. Il y a Ralph Dibny qui est Extant Seaman, personne n'en a entendu parler, c'est vraiment un personnage assez obscur. On en a parlé dans Crise d'identité notamment, qui est un récit que j'aime beaucoup. René Montoya, qui est un flic de Gotham, qu'on retrouvait dans Gotham Central, et qui va rencontrer The Question, qui est un personnage très particulier, qui n'a pas de visage, un costume sans visage. On va avoir John Henry Irons, qui est Steel, un des personnages qui a suivi la mort de Superman, qui s'est révélé au monde au moment de la mort de Superman. Booster Gold, qui est un personnage qui vient du futur et qui est un personnage un peu déjanté, un peu un espèce de loser pathétique. Oh. Et Black Adam, donc l'ennemi de Shazam.
D'accord.
Et dans cette histoire, en gros, on va suivre ces 5 personnages, donc un peu à la manière d'une série télé, avec tout un tas d'arcs narratifs qui vont se croiser au fur et à mesure. Et c'est écrit, cette histoire-là, par 4 auteurs majeurs de chez DC, donc qui sont partagés. Chacun écrivait un arc à l'intérieur des mêmes numéros, que sont Geoff Jones, Grant Morrison, Mark Waid et Greg Rucka.
Pas mal.
Donc on a quand même l'équipe All-Star absolue, quoi. Voilà. Et coordonnée par Keith Giffen, également, qui est auteur aussi chez DC. Avec pas mal de dessinateurs, il y a Joe Bennett, notamment, qu'on a vu sur Immortal Hulk, dont m'a parlé RD tout à l'heure. Darick Robertson, qui est sur The Boys, etc. Donc, grosse équipe, et on va avoir donc, toutes ces petites histoires qui vont s'entremêler, et qui vont être bourrées, finalement, donc, d'action, c'est clair, avec énormément de twists, de retournements de situation, chose que j'apprécie particulièrement quand je lis un comics, mais également bourré d'émotions. Et notamment, on va voir la destinée tragique de Black Adam et d'Extensiman. C'est extrêmement touchant. Et moi, en gros, quand on a à la fois des twists, un côté touchant et des beaux dessins, bah, je suis client directement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande et qui peut être une bonne petite idée.
C'est pas trop disparate au niveau dessin.
Franchement, ça passe bien comme c'est des arcs narratifs différents. Du coup, ça, disons qu'on va avoir une continuité par arc narratif, par personnage, mais à l'intérieur d'un même numéro, c'est pas choquant, parce que quand tu passes d'un dessin à l'autre ou d'une scène à l'autre, ça pose pas trop de soucis. Moi, en tout cas, ça m'en a pas posé.
Ouais, d'accord. Mmh. Ok. Et donc, le récit se tient bien en lui-même
Ça se tient très très bien. Il y a 52 numéros, ça marche très très bien, et pour le coup, enfin voilà, on y croise énormément de personnages de l'univers d'ici. Hein. C'est très très varié, c'est toujours très coloré, comme on l'a dans le comics habituellement. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs comics de super-héros que j'ai pu lire.
D'accord. Ouais. Ouais. Mmh. Est-ce que justement parce qu'ils ont un peu mis de côté les grosses têtes d'affiche, un peu ?
Oui.
Enfin, moi, pour l'avoir remarqué, je sais que quand les grosses écuries, tu vois, style Batman, Superman, sont mis de côté, eh bien, en fait, il y a des histoires, du coup, qui naissent et qui sont plutôt sympas. C'était le cas de Catwoman, Lonely City. Mmh. Et quand, du coup, exit Batman, le personnage prend plus d'ampleur et c'est d'autant plus intéressant.
Ouais, tout à fait.
Ok, ben, du coup je sais pas qui a une idée
cadeau. On peut reprendre sur ce qu'il disait. Donc moi j'avais envie de vous parler de Immortal Hulk, le tome 1 en omnibus qui va sortir. C'est un des Immortal Hulk, donc on est sur un omnibus, hein, donc on est à 70 euros clairement, mais on est à 800 et quelques pages.
C'est rentable à la page, c'est clairement
C'est vraiment rentable et on est sur du bel objet parce que Panini généralement fait un coffret ou au moins une belle jaquette, c'est le minimum, mais généralement ils sortaient des coffrets, là je crois pas pour celui-ci. Je le conseille parce que c'est vraiment un des arcs les plus marquants de ces dernières années concernant Hulk. On n'en parle pas souvent dans cette émission parce que c'est vrai qu'on lit peu au final du Hulk. Il intervient dans certaines histoires, que ce soit Old Man Logan ou quoi que ce soit, mais on n'a pas eu beaucoup. Enfin, voilà. Là, on peut consacrer 800 pages à lire du Hulk sans problème, quoi. Voilà, parce qu'en plus, on se porte sur Hulk et pas sur Banner. Voilà, c'est Banner, il meurt, mais Hulk, il reste, quoi.
Et c'est ça, en fait, ouais, son alter ego.
C'est ça. Et après, il va dans un endroit, la fameuse porte verte, pour avoir des réponses sur qui il est vraiment, pourquoi les autres au sang vert aussi se retrouvent là-bas. Donc, il y a pas mal d'explications. Il y a un bon côté horrifique. Comment il s'appelle le gars déjà ? C'est Alwyn.
Alwyn, qui est
voilà, qui est la base de tout ça. C'est très bien dessiné.
Joe Bennett, ouais, du coup.
Franchement, il y a pas grand chose à dire. Hein. Il y a Lee Garnett aussi. Il y a Kyle Oates dans les trois qui font les dessins. Moi, voilà, comme je dis, quitte à pour une fois se pencher sur du Hulk, je recommande cette édition-là. Voilà, parce que tu vas retrouver une qualité-prix qui va assurer et un scénario qui va assurer le fait de poser 70 balles à Noël.
Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu. Enfin, le seul omnibus où je m'étais posé la question, c'était pour Captain America de Brubaker.
Ouais.
Je sais que c'est un run que j'adore, mais que j'ai déjà en deluxe. Le format.
Pas besoin.
Mais du coup, voilà. Mais c'est vrai que l'omnibus, c'est jamais trop. Ça m'a jamais. Toujours un petit peu freiné. Parce que ouais, l'objet, comme disait Christophe, c'est un gros objet. Tu le lis pas n'importe où.
Faut le lire sur
si tu es dans le lit et que tu tombes sur la tronche, tu le sens passer, quoi. Tu vois, non, mais je veux dire, voilà.
C'est sûr.
C'est pas une lecture pratique. Mais
moi, j'en ai plusieurs. Et j'avoue que c'est un plaisir que j'aime me faire à Noël. Il y a certains Noëls. La guerre des royaumes, ils avaient sorti. Alors là, c'est le format, tu sais, c'est vraiment le gros format d'édition avec le truc cartonné que tu sors. Voilà, j'avais aussi le Secret Empire. Mais Thor, c'est vrai que le Thor, là, les mille et quelques pages, je les ai pas encore finis.
Tu les sens passer. Ouais.
Mais le bouquin, il tient sur les au fil des années ou pas? Enfin, je veux dire.
Ah, ils sont nuls.
La colle. Parfait. Les cahiers ne détachent pas, tout
non,
ça.
Y a non,
pas
non, même les vieux que j'ai, le premier omnibus que j'ai acheté, c'est Onslow. Donc c'est dans les années 2000 et il a pas j'ai juste une petite un peu jauni sur le truc mais après t'as des trucs qui sont très importants par exemple le run de Gardenis sur Punisher je suis content de l'avoir en entier.
Et oui, c'est ça, c'est que t'as dans un seul volume, souvent, ou quelques-uns à la limite, mais au moins ça fait pas 15 000 tomes.
Là c'est des runs
dans
complets,
la bibliothèque c'est beau après aussi. T'as cet aspect-là.
Là, on est sur toute l'histoire et on a un vrai contenu. Donc, les omnibus, oui, c'est un investissement, mais ça reste un très bel objet cadeau. Et celui-là, particulièrement, en plus, est suivi par une qualité de scénario, quoi.
Ok.
Voilà.
On va continuer sur les livres et sur les coffrets. Moi, j'ai noté plusieurs coffrets bande dessinée, que ce soit pour les grands ou pour les petits. Il y a les géants, justement, on en parlait tout à l'heure avec notre ami James Chris qui ressort en coffret. Du coup, il y a deux coffrets, les tomes 1 à 3 et 4 à 6. En plus, ils ont bien fait les choses. Je crois qu'ils mettent maintenant des cartes à collectionner. Ils ont vraiment... Ils pensent le truc chez Glénat. Donc, c'est plutôt bien. Il y a le coffret de Brume aussi, qui est une série BD jeunesse qui marche
sorcière.
Très, très bien. Là aussi, on a les auteurs à l'œil. le coffret de Elle aussi, de Kit Toussaint aussi, qui peut marcher très bien. Et pour les grands, j'ai noté l'intégrale de Saint-Elme chez Delcourt.
Oh, c'est bien ça.
Qui est là,
c'est trop bien.
Qui est là aussi, une BD qui marche bien. Alors,
rappelle-moi Saint-Elme.
Frédéric Peters.
Saint-Elme, c'est ça.
Et Lehmann, Serge Lehmann.
Ouais, Serge Lehmann.
Ça parle.
Je pense que.
Alors, je suis en train de le lire en ce moment. Tu l'as le pitch, toi, ou pas?
Non, pas trop. Ouais. Non. J'avais vu Thomas, en fait.
Alors, en fait, c'est dans une station thermale de montagne et où on a une espèce de mafia locale et un enquêteur, en gros, qui se pointe pour retrouver le gamin d'une famille qui a disparu.
Ok, d'accord.
Et voilà, il y a tout un tas de trucs. Enfin, c'est excellent. En termes de scénar, là, des rebondissements. Il y en a sans arrêt. J'ai lu le tome 4 là récemment. C'est incroyable le dessin.
Le dernier, je crois.
Non, 5. Il y a 5 tomes. Et il y a sur la couleur, notamment, c'est un truc de fou, quoi. Il y a des fois des scènes entièrement dans une cave, dans des espèces de grottes. C'est vert, bleu. Enfin, il joue souvent avec une ou deux couleurs.
C'est pour ça.
Il y a du vert. C'est vrai.
Il aime bien faire ça, Peters. Il aime beaucoup faire ça, jouer sur ces scènes un peu particulières. Des fois, t'as des scènes éclairées au néon.
C'est ça.
C'est rouge,
agressif.
C'est génial parce que ça fonctionne, quoi. Puis son dessin, en plus, moi, c'est un de mes auteurs préféré, hein, Frédéric Peters. J'adore son dessin.
Arcane, il y a beaucoup de dessins comme ça.
C'est
fluo qui ressort. Ça
marche aussi.
Mm-hmm. Donc du coup, à noter. Et le coffret Zaroff, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est dans la collection signée chez Le Lombard de Sylvain Runeberg, qui a signé aussi Capitaine Flamme. Et Zaroff, c'est une espèce de riche chasseur qui aime bien les chasses à l'homme. Et voilà, chacun ses hobbies le week-end, mais du coup voilà, donc il y a deux tomes qui ressortent dans un coffret avec un fourreau. Et moi, je trouve que cette collection signée, j'avais lu Le Serpent et le Coyote, qui était extraordinaire, et du coup c'est une très très belle collection signée chez Le Lombard. Et donc là aussi, ça peut être un beau cadeau et l'occasion de découvrir en une seule fois tout l'univers de cette série qui est en deux tomes, un diptyque, 1-2. Donc Zaroff, chez Le Lombard, dans la collection signée.
Très bien, voilà. Je te remercie. Annie ?
Moi, je voulais me pencher sur la sélection, la BD dont vous êtes le héros.
Ah oui,
J'aime beaucoup.
Ça marche en BD, ça ?
Ça marche très bien, même en BD.
Ah oui ?
Et on en vend actuellement aussi.
Non, mais pas forcément le vendre, mais je veux dire,
le concept
il
marche. Je me suis posé la question.
Pour être tout à fait honnête, je me suis fait une passe et je crois que j'ai tout en fait, ce qu'il y a en disponible de la série. Mmh. Et il y a des nouveautés, en fait, qui arrivent bientôt aussi.
D'accord.
Donc, j'ai hâte de le faire. Mais j'aime bien parce que t'as tout ce scope de vraiment scénario complètement à part différent. Donc, tu peux avoir des trucs avec des super-héros, des trucs avec des investigations criminelles. Tu peux avoir aussi... Tu peux être l'assistant de Sherlock Holmes. Tu peux incarner un loup-garou. Tu as plein de choses. Et il y a une réjouabilité, moi, je trouve, parce que
oui, c'est ça aussi.
Au fur et à mesure, tu te rends compte que bon, certains choix sont peut-être pas bien. Donc, l'idée, c'est juste de pas tricher et de pas noter, en fait, ce qu'on choisit pour qu'on puisse revenir en arrière et vraiment découvrir. Mais je trouve que c'est très intéressant. Et puis, les énigmes, la façon dont les choses, elles sont tournées et tout, elles sont suffisamment intrigantes pour que tu veuilles continuer à le faire, en fait. Et moi, ce que j'avais l'habitude, c'est beaucoup dans les voyages, dans les déplacements professionnels, je les prenais, en fait, et ça en faisait tout le voyage.
Ah, du coup, t'as plusieurs lectures, en fait.
Ouais,
ouais, d'accord.
Ouais. Tu te surprends.
Sans les choix.
Tu te surprends à chaque fois.
Mais c'est très, très, très intéressant.
Et là aussi, c'est pour quel type de lecteur ? Quel âge, surtout ?
Alors, ça va dépendre surtout du bouquin. Mais si je devrais faire une moyenne, je pense que je partirais à partir de 13-14 ans.
Mmh. Ouais, il faut avoir un peu l'expérience ouais. déjà de la lecture pour dire je vais de l'un à l'autre et j'ai pas
oui,
eu.
Il faut pas être dirigé voilà, pris par la main comme tu peux le faire avec un jeune.
Il y a aussi des versions enfants en fait pour ce cas de figure.
D'accord.
Ouais, ouais, ouais.
Ça coûte combien ?
Ouf.
Cette histoire.
Alors, en moyenne, on est autour de 20 euros quand même. C'est...
D'accord. Voilà. Ça va, c'est
accessible. Oui, bon, après, ça reste malheureusement les prix.
Ça reste le prix. Ça reste le prix.
À peu près tout en ce moment. Mm. Ok, merci Annie. Mm. Christophe, tu veux nous parler d'une.
Oui, je pouvais vous. En fait, je pensais vous parler de Kaiju numéro 8, mais en fait, j'ai changé d'idée.
C'est bien.
Désolé.
Oh non.
Voilà. En fait, je vais pas vous parler de ça, en fait. Parce que, en ce moment, je suis en train de relire un manga, un vieux manga qui date des années 90.
Mm-hmm.
Donc, c'est Gun.
Oh, ouais.
Vous vous souvenez
si.
De Gun.
Moi, je me suis racheté.
Bah, moi, justement, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me racheter. Donc, ils ont ressorti. Ils ont fait une nouvelle édition au format vraiment manga. Mm. Donc, en petit format. À l'époque, on les avait lus. C'était du grand format.
Oui, c'est vrai les que la première édition était sur un grand format.
C'était assez grand. Et du coup, moi, je suis retombé là-dedans. Le dessin est magnifique. En fait, ça n'a pas pris une ride.
C'est ça.
C'est un univers dystopique, un peu même cyberpunk, où tous les personnages sont un peu modifiés, ils ont des parties en robot. Des fois, il ne reste que la tête et le cerveau qui fonctionnent. Le reste, c'est qu'un humanoïde robotisé. Mmh. Et en fait, ça fonctionne trop, trop bien.
Il y en a à la préfecture, je crois. Vas-y, continue. Il fallait que je l'attende.
Je suis content qu'il ait pas mis la mairie. Il a choisi après. Ça me va.
Et en plus de ça, le hasard faisant bien les choses, je suis retombé en fait sur le film Alita Battle Angel.
Oui, j'allais dire justement.
De James Cameron.
Tout à fait.
Et bon, alors le film, il est ce qu'il est, mais la première partie du film, elle est chouette.
Oui, complètement.
Elle est vraiment chouette. Et la nouvelle du moment, c'est qu'en fait, les producteurs en fait vont lancer le deuxième film.
Oui, la production.
La production
du deuxième. Et donc pareil avec James Cameron derrière au niveau de tout ce qui est technologie 3D, donc au niveau des moyens, il y a ce qu'il faut.
En production quoi.
Ouais. Mmh. Et après je sais pas au niveau de la réal qui ce sera, mais en tout cas, le hasard faisant les choses, je me suis refait les mangas. Et en même temps, en voyant le film, je me suis dit, mais en fait, ça fonctionne trop bien. Quoi. Ouais.
Mais est-ce que tu vas t'arrêter à la série Gun ou est-ce que tu vas passer au Gun
Ah oui, non, mais après, je vais faire. En fait, j'y vais tranquille.
C'est quoi
en fait.
Après le...
J'ai Gun le... Last Order.
Last Order,
ouais, c'est ça. Ouais.
Et après, il y avait même la jeunesse
après,
de Gun sur Mars.
Mars ouais.
Bah, en fait, moi, je lis de temps en temps, je lis pas souvent. Et j'apprécie vraiment Gun en ce moment. Donc, je prends plaisir. Le dessin, il est vraiment, encore une fois, il est magnifique. L'auteur, je sais pas comment il a fait pour avoir autant d'inspiration à l'époque. Parce qu'il y a des trucs qu'on vieillit hein, quand on regarde. C'est les années 90. Hein.
Oui.
Et par exemple, Appleseed, les années 80, Ghost in the Shell. Les personnages, ils ont quand même vieilli. C'est des coupes de l'époque, des coupes de cheveux de l'époque et tout. Et ça, Gun, en tout cas, ça n'a pas pris une ride. Et moi, je le conseille vraiment, quoi.
Oui, non, c'est... moi, comme toi, je l'ai redécouvert il y a un an et demi ou deux, peut-être, avec la sortie d'Alita ou la disponibilité. Et même avant de commencer les mangas, Gun était déjà une référence.
Ouais,
ça fait partie. On en entendait parler, même si t'étais comme pas Akira, dans les mangas ou quoi que ce soit, il y en avait deux. Il y avait Akira et il y avait Gun. Ouais. C'est sûr. Après, il y a eu Ghost in the Shell qui est venu un peu plus tard. Mais comme tu dis, oui, c'est un monument du manga et c'est un des mangas que t'as envie d'avoir en référence.
Ça se lit même très bien encore aujourd'hui. C'est vraiment l'âge d'or du manga. Et puis le fait qu'il les ait ressortis en petit, comme ça...
Et puis le dessinateur, dont je ne me souviens plus le nom, tu l'as
le dessinateur, je l'ai là, c'est Yukito Kishiro.
Voilà. a une capacité de détail.
Ouais.
Quand tu prends les plans larges de la ville, c'est
la décharge,
et puis toute partie métallique est faite.
Il a vraiment pensé son univers, le gars.
C'est impressionnant. Ouais. Ok, on a fait un bon tour. Je pense.
Pas mal.
C'est diversifié.
Oui.
Exactement.
Mmh. Chacun se fera une idée. N'hésitez pas à nous en donner aussi. On va arriver à la partie attendue. Elle est contente, elle va vous
attendre.
Donc, c'est Jay cette fois.
Oui, tout à fait.
Alors, vas-y, on voit le jingle et on passe au quiz.
Une énigme pour Batman. La résoudras-tu ?
Oui, alors.
Pourquoi il y a
gloup, gloup. Il y a des bloup bloup.
Des bloup bloup. Ah oui, bon, peut-être.
Oui, je confirme, j'ai entendu.
Je sais pas si c'est pas dans l'extrait de la série animée d'où sort l'énigme. C'était peut-être même le jeu vidéo Arkham, il me semble que je l'avais récupéré, et où il y a une cuve de produits chimiques derrière.
Enfin, voilà,
il y a
un truc dans le genre. Ça,
excusez-moi, j'ai encore ramené ma frette.
Ah non, mais c'est pas grave, écoute, ça passe très bien.
Allez,
donc petit quiz spécial Noël. Alors, forcément, il y aura pas trop de mangas, parce que Noël, au Japon, c'est pas la fête la plus importante. Donc voilà, on va être pas mal sur le comics, un peu de BD franco-belge. Alors, première question. Quel héros a eu droit à son adaptation du conte de Dickens en comics en 2011, dessiné par Liber Mero?
Batman Noël.
C'est Batman. Effectivement.
Batman Noël.
Noël, tout à fait, où il voit un de ses sidekicks morts revenir. Voilà les trois fantômes. Là, c'est Jason Todd, notamment, qui revient le hanter.
Et c'est typiquement sous cet album où tu te rends compte qu'il faut un scénariste.
Parce qu'il est dessinateur, lui.
Bah,
c'est
Dickens, très beau, quand même.
C'est Dickens au départ.
Bam.
Ah ouais, non, mais.
Dickens, quand même.
C'est Marini. C'est très beau, mais.
Ah oui, celui de Marini.
Non, c'est pas celui de Marini, mais Marini aussi, il faut un scénariste.
Son Batman. Ouais. Alors, deuxième question. Quel auteur de BD a créé une histoire mettant en scène le petit Noël, un garçonnet resté seul la nuit du 24 décembre et se baladant dans les rues de Champignac en Cambrousse?
Champignac, c'est Peyo.
C'est pas Peyo.
C'est Franquin.
C'est Franquin.
Ouais. Bien
joué. Bravo.
Joli. Dans quelle série TV mettant en scène un héros de comics et se déroulant à New York City 6 jours avant Noël, diffusé en 2021 sur Disney+, donc on retrouve un duo.
C'est Hawkeye.
Hawkeye, tout à fait. Je t'ai laissé.
C'est la série Hawkeye.
C'est la série Hawkeye.
Très bonne série d'ailleurs que vous pouvez vous regarder pour Noël, parce que c'est intemporel au final et vous pouvez regarder pour Noël. C'était il y a 3 ans maintenant.
Ouais, c'est 2021.
Et très très bon.
Dans quel manga par le créateur de Love Hina, paru au Japon en 98, puis chez Pika en 2006 chez nous, met en scène un jeune homme nommé Santa qui erre dans les rues de Tokyo le soir du réveillon de Noël et rencontre une jeune fille maladroite qui prétend être la fille du Père Noël. Alors celui-ci, c'est... Bon.
On peut trouver celui-là.
Pas.
Alors, on peut le trouver. Béton
Non. Je sais pas si vous l'aurez. Le nom était à moitié dans ce que je vous ai déjà dit.
C'est un animé ou c'est un...
C'est un manga.
Je sais pas. J'aurais pas d'idée.
Ça s'appelle My Santa.
Ok.
Voilà.
Okay.
Il n'y en a pas beaucoup des mangas sur Noël.
Ouais, non.
Mais c'est vrai.
C'est la fille
ça,
du Père Noël, c'était fille super fouettard, c'est ça.
C'est vraiment la chanson là.
C'est exactement ça.
C'est Marie Noël.
Oui, c'est ça. Les Japonais Balthazar ont repris le même truc. Quoi.
D'accord.
Alors, quel vilain chante Vive le vent en volant les cadeaux de Noël des enfants?
Le Grinch.
Le Grinch.
Non, dans un comics de 1997.
C'est le Joker.
Tout à fait.
Si ce n'est toi, c'est dans ton célèbre.
Dans un long Halloween numéro 3.
3
en 97, tout à fait.
Ouais.
Et ouais, qui reprend l'année et qui part d'Halloween, donc du coup, le troisième, ça tombe à Noël.
Superbe album.
Tout à fait. Ouais. Quel véritable acteur Drax et Mantis décident-ils de kidnapper pour remonter le moral de Star-Lord à l'occasion de Noël. C'est Kevin Bacon, bien sûr, l'acteur de Footloose, film culte des années 80. Donc dans le petit film de Noël, Joyeuse Fête, Les Gardiens de la Galaxie, ils ont sorti.
C'était très bien d'ailleurs.
Que te sens pas. Ouais, qui passait bien.
Sympa.
Alors, je pense que celle-ci, effectivement, sera plutôt pour Rémi, bien que Christophe peut la voir. Quelle est la maison d'édition de la BD Un Chant de Noël, adaptation du conte de Dickens par José Luis Munuera en 2022.
Dargo.
C'est Dargo. Il est trop fort sur les éditeurs.
Ah ouais, ouais.
Je pense que
Christophe
a surtout pas voulu se mouiller.
Aïe, aïe, aïe. Il a failli lancer Glénat, mais voilà, c'est bah pas incorporé. Ouais,
le mec veut continuer à bosser, si tu veux.
Tout à fait.
Faut pas le saborder.
Quel anti-héros est embauché par le Lapin de Pâques pour assassiner le Père Noël dans un comics ultra violent en 92 par Keith Giffen, dont je vous parlais juste avant, publié par DC.
Attends.
Adapté en court-métrage en 2002. C'est un personnage dont on a déjà parlé dans la bande des comics.
C'est pas Ward ?
Non, le comic s'appelait aux US Paramilitary Christmas Special. Et en France, il est sorti sous le nom Le Noël de...
Lobo ?
Lobo ! Tout à fait !
Bien.
Tout à fait. Bien joué. Comment s'appelle le comics indé qui revisite le mythe du Père Noël en mode médiéval fantasy ?
Klaus.
Klaus, tout à fait, qui est réédité par Urban, là.
Ouais, récemment, ouais. J'ai l'impression qu'ils vont rééditer un peu le catalogue Glénat Comics.
Et oui, du coup.
Ils ont récupéré Lazarus et c'est cool.
Tout à fait. Donc Klaus, ouais, écrit par Grant Morrison, dessiné par Dan Mora, le fantastique Dan Mora. Quel vilain décide d'endosser le costume du Père Noël pour sa tournée après l'avoir retrouvé évanoui dans une histoire signée par Scott Lobdell et John Byrne dans l'anthologie parodique What the... Numéro 2 en 1990 chez Marvel.
Chez Marvel.
Ouais, un méchant un qui vilain. Prend le rôle du
Père Noël.
Du Père Noël. Alors, tout à
50,
fait.
Thanos.
C'est qui les plus gros vilains?
Les plus gros vilains, un de ceux dont on a beaucoup parlé récemment. Beaucoup, beaucoup parlé.
Kang.
Nous?
C'est pas Kang. Oui, nous, entre autres. Hein. Bah, tout le monde en a beaucoup parlé.
C'est pas Thanos, c'est pas Kang.
Le docteur Doom.
Doom, c'est Fatalis, tout à fait.
Ça,
tout
ouais.
à fait. C'est Fatalis.
C'est forcément.
Avec
Robert Downey. L'actualité du moment.
Je sais même pas ce que vous dites. Hein.
Je crois qu'on est deux, on est complètement paumés. Là.
Tellement.
Qu'est-ce qu'ils disent?
D'accord. Dans quel film sorti en 2019 se déroulant pendant les fêtes de fin d'année? Un enfant découvre le moyen de se transformer en super-héros, incarné
Shazam.
Par Zachary Levi. C'est Shazam.
J'allais le dire.
J'en avais une. Il n'y a pas de cadeau, pas de cadeau. Là, je réponds
à Christophe, c'est cadeau.
Tu réponds en premier, là.
J'ai un point.
Allez, une petite dernière. Comment s'appelle le chien sauvé par un héros dans l'annual numéro 1 2016 par Tom King et David Finch?
Comment s'appelle le chien?
Puis offert par le majordome Alfred à Bruce Wayne le jour de Noël. Je vous en ai parlé il y a 2 ans.
Ah ben merci.
Merci
Robin, j'en sais rien.
Non.
Le chien, comment il s'appelle le chien?
Blacky.
C'est pas Martin.
Martin.
Sérieux, moi.
C'est pas Blacky, il est dans le film Crypto et les super animaux.
Oui,
d'ailleurs.
C'est ça.
Il y a pas très longtemps.
Bolt.
Non, c'est pas Bolt. Ah,
Flash.
Non, c'est pas Flash.
Il a un truc non.
Il y a un lien
sombre,
avec il y a un lien avec les jeux de cartes.
Poker.
Blackjack.
Non.
Ah, pas mal.
Avec une des cartes en anglais, une des cartes
Rami.
Du card. Non.
Le valet, non?
C'est pas le.
Tarot.
Le roi.
C'est l'as, comme on dit l'as en anglais, du coup.
Ace.
Ace.
Ah, Ace.
Voilà,
ah,
c'est
oui.
Ace. Tout
Ace.
À fait.
D'accord.
Et voilà, nous avons terminé. C'est Rémi qui l'emporte d'une courte tête
Bravo,
avec
Rémi.
RD derrière, Annie et Christophe.
C'est
effectivement,
d'abonné.
C'était très comique, ça. De toute façon, je
vous avais pris. Comics.
Ah ouais, d'un bonnet, là, il a gagné. Bah écoute, bravo Père Noël.
Merci.
Bravo.
Tu règnes sur ton moi. Il en reste c'est encore ça. Une, hein. Faudra faire de celle de fin d'année,
ouais,
hein. On en reparlera. Eh bien, merci à tous, la bande,
merci.
Et toutes,
merci.
Toutes seules,
oui.
Et toutes seules. On se retrouvera pour fin du mois de décembre, il va falloir voir s'il y a une diffusion, quand est-ce qu'elle est.
Oui.
Je ne sais pas, voilà.
Oui.
On vous tient au courant, de toute façon, il n'y a pas de raison.
Ce sera après Noël.
Vous êtes tenus de tous les changements, vous le savez, on est sur les réseaux grâce à Rémi. Merci Christophe d'être resté.
Ben merci à vous.
Merci Christophe.
Merci
bien
d'être venu.
Très gentil. Voilà, pour tes idées cadeaux. On vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de week-end et à la prochaine fois. Au revoir tout le monde.
À bientôt.
Au revoir.